pour nous, en tant que ONG de développement, de solidarité internationale, c'est loin d'être une COP de l'action. C'est une des COP les plus molles auxquelles on a assisté. Ça doit être une COP africaine. Et finalement, on trouve que l'intérêt des personnes les plus vulnérables n'est pas représenté. Si on prend l'exemple des pertes et dommages, on a eu des avancées. Les pertes et dommages, c'est les pertes irréversibles face au changement climatique. Ça veut dire quand on perd sa maison lors d'un cyclone ou d'une inondation, ou qu'on doit se déplacer lors d'une catastrophe naturelle. Et il y a eu des avancées. On avance sur un programme de travail, on va continuer à travailler sur les questions d'assurance, de déplacer face au changement climatique. Mais on ne peut pas s'en satisfaire parce qu'à côté de ça, sur les financements pour réduire ces impacts ou sur la réduction des émissions, on est pas au point mort, mais quasiment. Du coup, ça veut dire que on préfère guérir que prévenir. Combien d'années il va falloir encore aux négociateurs pour comprendre ça et agir plus? C'est une vraie question pour nous.
Comment vous expliquez que certains États soient venus les mains vides à cette conférence, à cette COP22?
Je vais prendre l'image d'une augmentation de salaire, mais l'année dernière, tous les gouvernements sont allés voir leur ministère des Finances, demander des promesses, etc. Et puis cette année, ils y sont retournés et puis ils n'ont pas réussi à avoir une autre augmentation, d'autres financements pour l'adaptation, parce que c'est des dons qu'il faut pour l'adaptation. Et du coup, on se retrouve avec très peu d'annonces, des annonces en millions. Donc on va atteindre 80 millions, alors qu'on sait que les besoins sont 800 fois supérieurs. On dirait que les États ont confondu millions et milliards. On va leur rappeler que les besoins se comptent en milliards.
Cette COP22 était aussi censée être celle de l'agriculture à ce niveau-là. Est-ce que les négociations ont porté leurs fruits?
Je pense que l'agriculture, c'est le sujet le plus déprimant pour nous en tant qu'ONG de développement. La décision sur l'agriculture, c'est de reporter les discussions à juin prochain. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre dedans. Alors que le programme de travail sur ces questions-là, il est fini. Donc on va reprendre en juin prochain. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'initiatives qui ont vu le jour sur l'agriculture, mais avec des bonnes solutions dans certaines, sur l'agroécologie, sur comment faire de l'agriculture et augmenter la sécurité en même temps, sécurité alimentaire en même temps, et d'autres initiatives qui promeuvent l'utilisation d'engrais. Et donc on ne peut pas se dire que les engrais, c'est une solution pour lutter contre le changement climatique. C'est émissif, ça pollue et ça rend les populations plus vulnérables, notamment économiquement, parce que ça a un coût très fort pour eux.
Vous avez le sentiment qu'il y a eu plus de décisions individuelles que de décisions collectives?
Oui, les pays en développement, je pense, n'ont pas été assez forts ensemble pour s'opposer à la vision des pays développés. Et puis, on préfère la facilité, aller discuter dans des organes, dans des initiatives qui finalement ne sont pas encadrées, plutôt que favoriser le multilatéralisme où tout le monde est présent, où on est censé fixer un cadre pour que justement les personnes les plus vulnérables, elles soient protégées, et que quand on fait des actions pour le climat, on fait aussi des actions qui ont des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques.
Vous parliez d'avancées tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'avancées qu'il y a eu pendant ces négociations?
Alors, on a des avancées sur le calendrier, notamment de négociation de l'accord de Paris. On pensait avoir une fin des négociations sur les règles de l'accord de Paris en 2020. C'est avancé à 2018 grâce à la ratification assez rapide. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous, le compte s'arrête là et donc c'est un peu juste.
On parlait beaucoup pour cette COP de justice climatique et les pays africains l'ont rappelé lors de leur sommet mercredi dernier. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur la justice climatique?
La justice climatique, elle n'est pas discutée en tant que telle, malheureusement, dans les négociations. Donc, quand nous, on parle de justice climatique, c'est avoir un accord qui est favorable aux plus vulnérables, qui ont le moins contribué au changement climatique. Donc, à partir de là, pour nous, les avancées sur la justice climatique, elles sont trop limitées. Et du coup, c'est vraiment pas la COP de la justice climatique.
Et vous parliez aussi tout à l'heure de la crainte que les États ne soient plus garants, mais reportent les responsabilités sur les associations, sur les ONG.
Ségolène Royal l'a dit dans son discours, ils ont fait un transfert de responsabilité sur les acteurs non étatiques, donc les ONG, les entreprises privées. Mais nous, on attend des États qui soient responsables, qui fixent un cadre et qui augmentent l'ambition, parce qu'on sait que les politiques publiques, elles sont utiles pour augmenter l'ambition. On sait aussi que les financements privés, ils arrivent quand les financements publics sont là. Donc, on ne peut pas tout transférer. C'est un échange, c'est un partage de responsabilités. On doit tous agir. C'est la seule solution pour lutter contre le changement climatique. Mais les États ne peuvent pas se dédouaner de leur rôle et de leur responsabilité sur cette question.